Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi-quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Et au programme de ce pédalo du 2 juin, on vous propose une interview du rappeur Roca, interview qui a été réalisée par nos amis de Radio Campus Tours. Et puis, comme chaque mardi, on retrouve Philippe pour sa chronique qui remet en cause la croissance. Aujourd'hui, il questionne les private credits. Voilà, vous savez tout de ce pédalo du mardi 22 juin. Alors, ajustez votre gilet de sauvetage parce que le pédalo part à l'abordage.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
On est mardi et comme tous les mardis, on reçoit Philippe dans ce studio. Salut Philippe.
Salut Simon.
Alors aujourd'hui, pour ton avant-dernière chronique de l'année, tu nous parles des private credits. De quoi s'agit-il ?
Alors pour Frédéric Lordon, l'auteur d'un article dans Le Monde diplomatique du mois de mai, c'est la plus grande menace aujourd'hui pour le système économique. Le système du private credit fait partie du shadow banking system, la finance de l'ombre. Autrement dit, d'un système plus ou moins opaque, peut-être plus que moins d'ailleurs. C'est un prêt entre partenaires privés. Ce n'est donc ni du crédit bancaire, ni une obligation émise sur le marché. Donc ça n'obéit à aucune de ces réglementations. C'est juste A qui prête à B à des conditions négociées entre A et B. Je précise tout de suite que ce n'est pas pour l'essentiel quelqu'un comme moi qui prête quelques centaines d'euros à un proche qui en a besoin pour le dépanner. A est un investisseur fortuné ou une entreprise qui a des liquidités et veut qu'elle lui rapporte un maximum d'argent. Et B est une entreprise qui a besoin de se financer.
Et comment est-ce qu'il rentre en contact ?
Alors les private credits ne sont pas des prêts bancaires, mais ils passent quand même par des fonds spécialisés. Leur travail est d'identifier les emprunteurs a priori fiables, c'est-à-dire qui vont rembourser les emprunts, et de trouver des financeurs en face, en prenant bien sûr une commission au passage.
Mais c'est quoi l'intérêt des uns et des autres ?
Alors souvent, B est une entreprise qui n'est pas assez grosse pour se financer sur les marchés en émettant des obligations. C'est un marché réglementé. Soit dont la santé financière n'assure pas confiance aux banques, qui refusent donc de lui prêter de l'argent.
Mais alors, quel est l'intérêt de A ?
Eh bien, comme B a besoin d'argent et n'a pas trop de choix pour en trouver, B accepte de payer des taux d'intérêt très élevés, une sorte de prime de risque. A sait qu'il risque de ne pas revoir l'argent prêté à certains de ses emprunteurs, mais les taux d'intérêt très élevés que vont lui payer les autres font que c'est quand même en moyenne très profitable.
Et où est le problème ?
Eh bien, comme dans la tête, toujours dans le défaut de paiement, c'est-à-dire quand des emprunteurs ne peuvent plus rembourser. C'est ce qui s'était passé avec les subprimes et avait conduit à une crise majeure en 2008, avec notamment la faillite de Lehman Brothers. Tant que les défauts de paiement sont un très faible pourcentage, 3 à 4%, tout se passe bien. Ça fait partie du risque, c'est compensé par les taux d'intérêt élevés. Ça se complique quand le taux de défaillance grimpe ou quand les investisseurs ont peur qu'il grimpe dans un secteur. Dans ce cas, ils veulent se retirer et récupérer leurs billes. Problème, ces contrats de crédit privé stipulent que les investisseurs ne peuvent retirer que 5% de leur mise par trimestre. Ils sont piégés.
Alors ce que tu nous expliques, c'est que des investisseurs pourraient perdre leur mise. En quoi c'est grave ?
On parle pour le private credit de centaines de milliards de dollars. Si le système commence à vaciller, c'est toute la finance qui va être touchée, comme dans la crise des subprimes de 2008. Et la probabilité que ça arrive est aujourd'hui très grande. 30% des fonds de private credit sont investis dans le secteur du logiciel, un secteur où l'arrivée de l'IA crée des bouleversements sans précédent. Fin 2025, les taux de défaillance montaient de 3 ou 4% à 6%. Et la banque UBS anticipe un scénario du pire à 15% de défaillance. Mais c'était avant le déclenchement de la guerre en Iran, avec ses répercussions sur l'économie mondiale, notamment les coûts de l'énergie. C'était aussi avant que le monde de la finance prenne la mesure de l'énormité des investissements dans l'IA, des milliers de milliards de dollars, alors que les entreprises du secteur perdent des milliards chaque année, et que le leader, OpenAI, ne prévoit pas d'en gagner avant 2030. Début mars, des fonds de private credit étaient confrontés à des demandes de retrait de 9 à 14%. Un mois plus tard, c'était 22 à 40. Autrement dit, un vent de panique souffle sur le secteur.
Et qu'est-ce qui nous attend ?
L'avenir n'est jamais écrit. Surtout avec un président des États-Unis complètement imprévisible. Mais le scénario d'une crise majeure, avec faillite en série, krach financier, restrictions drastiques du crédit et récession, est très plausible. L'auteur de l'article du Monde diplomatique, Frédéric Lordon, donc, estime que, je cite, les Subprimes en folie étaient une petite troupe d'amateurs à côté de ce qui nous attend.
Alors rendez-vous à la rentrée pour voir comment ça a évolué.
Exactement.
Merci Philippe pour cette chronique, on te retrouve la semaine prochaine.
Avec plaisir.
Pour cette deuxième partie d'émission, on vous propose d'écouter une interview qui a été réalisée par nos camarades de Radio Campus Tours. Ils sont allés rencontrer le rappeur Roca.
Pour interviewer Roca, nous étions avec Amari pour une interview en français et en espagnol et nous avons longuement discuté de rap, des cultures musicales colombiennes et aussi de l'album Vénus à sortir le 5 juin, produit avec Kyo Itachi. Bonne écoute!
Pour préparer cette interview, on a revu des interviews que tu as données récemment et d'autres qui datent des années La Clica, au cœur des années 90 et 2000. Et d'ailleurs, là-dessus, la chaîne Ina Hip Hop de Lina sur YouTube fait un travail remarquable. Et il y a une constante dans tes interviews. Dès les années 90, tu te projetais déjà dans ce que deviendraient tes textes, sur comment ils seront perçus tes textes dans 10, 20 ou 30 ans. Et je trouve ça assez fou, en fait.
Et ah bon ? Non, moi, je trouve que... Comme moi, j'ai un critère d'une famille d'artistes, j'ai toujours conçu l'art, n'importe quelle forme d'expression, avec une partie de longévité. Donc j'ai toujours dit, quand je fais les choses, faut faire les choses bien pour qu'on n'ait pas honte de l'œuvre qu'on ait laissée dans le passé. Donc je crois que j'étais déjà sûr de ce que je faisais, plutôt. J'étais sûr que ce que je faisais, c'était... En tout cas, pour l'époque, avec les critères que j'avais, c'était le mieux que je faisais pour le moment. Et je trouve que ça a plutôt bien vieilli. La preuve, je fais encore des concerts où je chante parfois des chansons d'il y a 30 ans, 25 ans. Et je les rappe mieux aujourd'hui, mais le message, il est toujours nickel. Et la musique est toujours patate. Et le message est toujours flagrant et fort.
Et est-ce que quand vous posez avec toute la team d'Arsenal Records, par exemple sur l'album Conçu pour durer, t'es déjà persuadé de ce truc-là justement de durer et d'entrer dans une culture, le hip-hop, qui va peser pour les décennies à venir ? On t'a pas pris pour un doux rêveur ou en décalage à cette époque-là ?
Non, je pense pas, non, je sais pas, je crois pas, mais je pense que les artistes, il faut qu'on ait un peu tous de rêve, sinon si tu rêves pas, y a rien qui se fait. Faut rêver pour commencer à être motivé à faire les choses.
Roca, naciste aquí en Francia sí. Y tus padres son colombianos. Sí. ¿Y qué te hizo volver a Colombia?
No, yo siempre he estado conectado con Colombia, siempre desde el ADN mío. Y nunca fui como muchos inmigrantes o de familia inmigrantes que no vuelven nunca a la tierra. ¿Sí? Yo nunca tuve esa separación de la tierra madre, nunca. Yo desde niño siempre andaba ya adolescente, lo que quería era solamente conseguir mi plata rápido e irme para allá y quedarme los 3 meses posible allá, lo más tiempo posible allá. O sea que yo nunca tuve esa cosa, pero yo sí siempre tuve algo que yo siempre... tenía como un presentimiento de que lo mío no iba a ser solamente en Francia. Yo sabía que no, que el rap mío tenía que llegar a otro lugar. Y creo que me tocó hacerlo y mover las fichas yo mismo y lograr un recorrido bacano, interesante y importante en el rap latino, como lo dejé también en el rap francés. Y sigo alimentando los dos. Ahora los estoy... digamos, uniendo, ¿no? Con un puente musical, la información entra más fácil de un lado a otro. Pero yo siempre tuve como ese sentimiento de que iba a volver a la tierra. Y ahora ya hace ya más de 15 años que vivo en Colombia. Entonces, pues ya volví, ¿sí me entiendes? Volví a la tierra y de ahí me mantengo moviéndome mucho, moviéndome para acá, para allá, haciendo pues, la vida de un artista, lo que soy yo, un MC internacional. Entonces me toca moverme mucho. Ve, ahora estoy ya aquí en tour, ya después vuelvo a Colombia, después me devuelvo acá y tal. Y pues, esa es la vida mía.
Y después de todos estos años haciendo música urbana, underground, de la calle y todo esto, ¿Qué crees tú que ha cambiado en tu música, en tu sonido?
Pues ha madurado, está más sabrosa. La gente que no se ha dado cuenta que estoy cantando mejor hoy día es que tenía mierda en los oídos o tiene mierda en los oídos, porque no puede ser posible, no puede ser posible que la gente me diga, no, yo prefería como usted cantaba antes. Es falso, es mentira. Estoy cantando mucho mejor ahora, la letra mía es más precisa, la voz mía está sabrosa, no estoy inventando, estoy creando cosas que ya, no sé, como más, no sé, como... yo prefiero lo que yo estoy haciendo hoy día, por eso estoy tan productivo, tanto con Tres Coronas, que como con Roca, como con los proyectos míos en francés, los proyectos míos en español. Nunca he estado en mi carrera musical tan productivo que estos últimos años. O sea que, no, lo que estoy haciendo ahora está, a mí me parece que está, como dicen los cubanos, está en talla, está bueno. Sí, está en talla. Show.
Así mismo. Y recientemente falleció Toto La Momposina.
Sí.
Es muy triste esto. Y yo quisiera saber cómo ha influenciado la música tradicional colombiana en tu sonido como Roca.
Pues desde el nacimiento, porque mira que mis tíos tocan música, son todos músicos de formación clásica, pero los hermanos de mi mamá, todos son músicos profesionales y montaron una banda que se llama Bacatá, que es una banda de folclor colombiano, donde tocan cumbia, bullerengue, joropos. Ellos son multi-instrumentistas, o sea, te pueden pasar del chelo a no sé qué, de la flauta a la gaita, tocan todos los instrumentos y todos los folclores. Y yo desde niño estaba oyendo los ensayos de mis tíos, cuando se reunían mis tíos con la familia entera, tocaban folclor, porque son todos músicos, imagínate, profesionales, o sea, cuando tocan es sabrosísimo, no es un músico amateur que está ahí, que sacó la guitarra un domingo, y no, son músicos duros. Entonces yo crecí con ese criterio de eso, del folclor, que fue el ADN mío primero, ¿no? La música, antes del rap, antes de cualquier tipo de música, es el ADN colombiano. Entonces, obviamente, ahora que tú hablas de Toto, yo la he visto en concierto en París cuando yo vivía allá. Incluso me cuentan, porque yo no me acuerdo tanto, que ella venía al taller donde estaba mi papá y mi mamá, se tocaba en las fiestas colombianas, ella venía, ella vivió una temporada en París. Y esa temporada, pues, yo la vi, y yo era chiquito. O sea, yo crecí con el folclore, la verdad. Es como el ADN mío, y yo no me di cuenta de eso, sino ya cuando empecé como a querer mezclar, fusionar cosas con el hip hop y la música colombiana, la música criolla, la música afrolatina, me di cuenta que lo tenía todo, que yo sabía todo, sabía una cumbia, sabía el bullerengue, sabía esto, sabía de... ¿Sí me entiendes? Sabía el 6x8 del joropo, sabía esto, sabía ya todo, porque desde chiquito lo tenía ahí.
¿Lo tenías en tu ADN, en tu sangre?
No, lo tenía, sí, entonces para mí fue muy normal poder fusionar los géneros que yo conocía, porque hacen parte de mi ADN, es mi ADN primero.
Te hago una pregunta todavía más difícil. En ese ADN, pues, acabas de mencionar el joropo, el bullerengue, las cumbias y tambores. ¿Cuál es tu región favorita en Colombia, la región que te hace vibrar?
No, eso no se puede decir. No porque cada región tiene una cosa tan bacana, tan bonita y tan propia y tan diferente a la otra, que no puedes decir, y yo además que yo me crié fuera de Colombia, o sea que no hago parte de una región específica de Colombia, sino que me crié como mucha gente de afuera que con el sueño o la nostalgia de ir a la tierra y de volver y de quedarse allá y disfrutar de sus abuelos, de sus primos, que todos están allá. Entonces yo no crecí como pensando en que, ay, no, sino que, caramba, todas las regiones son mías. Ya uno no se siente qué tal, que obviamente la familia mía son de Santander, Bucaramanga, pero el folclore, me encanta el folclore del Pacífico, como me gusta el de la Guajira, como me encanta el de la costa, como me encanta el de la tierra andina, como me encanta el de los llanos. No, a mí me mueve igual un joropo que un currulao, que toda esa música, porque la siento, ¿sí?
À écouter les textes en 2026, comme ceux que tu as écrits par le passé avec Tres Coronas ou avec La Clica, enfin des textes des années 90-2000, on repère des structures syllabiques et des constructions aussi de rimes qui paraissent semblables. Est-ce que tu penses tes rimes de façon colombienne? Est-ce que tu écris en français un peu à la manière des décimas de la tradition orale espagnole?
Je sais pas, moi je vois plutôt que je travaille les rimes comme des placements rythmiques. Ça veut dire que mes textes sont très techniques, très difficiles à rapper, aussi bien en français qu'en espagnol. C'est très technique. Les rimes, elles sont partout, elles sont croisées, elles sont... Parce que je cherche toujours une sonorité et je les place toujours d'une manière très rythmique selon la rythmique qui arrive. Je peux poser mes rimes, je les sens comme un coup de percussion. Et je cherche beaucoup d'utiliser des mots simples et des mots qui soient sonores. J'aime pas utiliser un mot qui sonne pas. Je préfère trouver un synonyme, aussi bien en français qu'en espagnol, qui swing plus. Quitte à simplifier parfois la phrase, mais c'est important que ça sonne agréable à l'oreille. Il faut que ça soit musical, parce que c'est pas que de la poésie le rap, c'est de la poésie rythmée. Et j'insiste beaucoup sur le côté rythmé. C'est ce qui fait la différence avec une poésie naturelle, normale, la cadence d'une poésie qui est beaucoup plus lente. Le rap, c'est un solo. Moi, en tout cas, je conçois mes couplets comme un solo de percussion. Voilà, c'est un solo de percussion.
Justamente, nos preguntábamos en la coherencia de los textos, es que tú prefieres como contarnos una historia o hacer poemas o simplemente las palabras que quieres rimar, ellas van llegando y así las vas agregando con tu contexto percutivo.
Pues yo me la paso todo el día oyendo frases, pensando, haciendo cosas y cogiendo notas aquí en mi celular de lo que puede ser a veces una película y hay una frase que me gustó y me da, a veces ni siquiera la frase, es como la idea, entonces me sale una rima, uff, ta, o estoy ahí hablando con un amigo y de repente saco una frase y ping, es más, tengo una que tengo que escribir ahora que se me va a olvidar.
Dígala.
Espera, aquí la copio, graba, aquí breve, porque la tuve ahoritica, espera, llegando, espera, así soy yo, ve, cojo notas, Y me la paso escribiendo cosas así y al final cuando ya, yo siempre escribo, no escribo si no tengo pista, solamente escribo la idea.
Okay. Esa idea va fluyendo con lo que vas sintiendo y esa pista se va transformando también en la canción final.
Sí, yo antes yo escribía, ya escribí la idea, por eso. Antes yo escribía verso por escribir verso, pero ya... Ahora yo no escribo si no tengo música, escribo solamente ideas, okay. Un punchline, una rima, una idea, una impresión, y ya después cuando llega la pista, pues yo me dejo que la pista fluya también en mí, y ahí empiezo a agarrar un flow, entro en freestyle, y de repente me sale la primera rima, que por lo general siempre la primera rima que me sale es la que es, no sé por qué, tengo ese don. Rara vez no. Entonces ya cuando tengo la primera frase que me llega el primer punchline, ya me empieza a llegar el tema. Ya. Y ahí escribo sin problema. Soy bastante rápido y furioso.
On va parler un peu de l'actu. Dernièrement, tu as sorti des titres avec le beatmaker Kyo Itachi. Lui, de son côté, il a déjà collaboré avec un très gros nombre de rappeurs américains, notamment, je pense à Russ Dukes, Bootcamp Clip, c'est pas rien. Est-ce que tu peux nous parler de cette collab, de ce qui se prépare, ton actu, un EP, un album à venir?
Oui, bien sûr, là, c'est l'album Vénus qui sort le 5 juin. C'est un album avec Kyo Itachi, un putain d'album. Je crois que c'est vraiment un gros album. Là, les gens qui ont pu écouter les singles qui sont sortis, Intemporalité, Punisher... Free Jazz, IA, vous voyez que ça blague pas du tout. C'est du très gros rap, c'est très sérieux, ça rappe vraiment, ça kick. Les gens sentent que j'ai du plaisir à rapper en français. Et c'est un projet qui vient de d'autres projets qu'on avait commencé avec Kyo et qui ont avorté. Et qui finalement se sont transformés en d'autres projets. Et après, on a commencé à travailler, par exemple, avant Vénus, j'ai déjà un album en espagnol avec Kyo qui est déjà terminé. Mais je ne sentais pas le moment encore pour le sortir. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui... Puis j'avais d'autres actualités à ce moment-là. Puis à un moment donné, il y avait un album en français qui était terminé, qu'on avait fait avec Kyo, mais il a pris du temps à sortir. Et du coup, comme c'était un essai aussi, des choses que je... On a détaché l'album, il s'est transformé en petit single qu'on va lâcher après Vénus. Vous allez voir, c'est des très bons morceaux aussi. Et moi, j'avais pas trop envie de re-rapper en français, en vérité. J'étais sur d'autres projets en espagnol. Et Kyo m'a convaincu, d'une manière musicale, à rapper en français. Et l'album est arrivé très, très vite. Hein. J'ai écrit l'album en 9-10 jours. Je l'ai posé en 2 jours. Je me rappelle, je suis rentré un mardi en studio. Et mercredi, c'était fini l'album. J'ai posé l'album en les 13 titres en 2 jours. Et je me suis vraiment amusé, ça sonne live, c'est direct, c'est pas de chichi, il n'y a pas de cut, les couplets s'enchaînent avec les refrains se enchaînent avec les couplets, il n'y a pas de attends là je fais le couplet, j'arrête, on fait la pause, on fait le refrain, une seule voix, brah. Et c'est ça qui donne le ton de l'album, et je pense que c'est l'inspiration et le pourquoi l'album s'appelle Vénus.
Eso estaba en tu ADN. Y entonces ahora te voy a hacer un tac-tac.
Ok.
Un tac-tac. Entonces, ¿estás listo?
Ah, ok.
¿Sí? Ok, listos para el tac-tac. Para un tac-tac. ¿Patacón o croissant?
No, patacón.
¿La Candelaria o Montmartre?
Es diferente. En la Candelaria no venden... En Montmartre no venden... la oblea y no venden la chicha y no venden eso, venden crepes. Me gustan los dos. No puedo decirte porque me gusta también el Montmartre y me gusta la Candelaria. Pero no, ahí no puedo decirte porque son dos cosas muy diferentes, son dos ambientes diferentes.
¿El pibe o Zidane?
Ah, el pibe.
¿Joey Arroyo o Yuri Buenaventura?
Pues yo iría por respeto a la leyenda, aunque me gusta mucho Yuri Buenaventura, pero por respeto a la leyenda diría yo Arroyo.
¿Alpina o la Bachquerie?
Alpina.
Ah, claro. ¿Papaya o grosel?
No, no me gusta la papaya. Es la única fruta que no me gusta. La papaya no me gusta. Entonces diría grosel. La papaya, mira, toda la fruta me gusta, menos la papaya. Además, cuando cojo una ensalada de frutas, digo, pero me quita la papaya y me mete más banano, me mete más mango, pero no me meta papaya.
Bueno, esta era mi tac-tac.
Ah, et pour terminer, est-ce que le Roca de 2026 aurait quelque chose à dire au Roca de 96?
Bah oui, plein de choses à dire. Trop de choses.
On va retenir ça, trop de choses.
Ouais, trop de choses à dire, oui, trop de choses. Parce que des situations que j'ai mal gérées dans ma vie privée comme dans ma vie professionnelle, genre qui m'ont fait perdre beaucoup de temps, être plus serein au moment de prendre des décisions, ouais, des choses comme ça. Il y a toujours des choses qu'on dit, mais pourquoi j'ai fait ça, j'ai pas assuré à cette période là j'ai pas assuré, comment ça s'est terminé, j'ai pas assuré cette relation là comment c'est terminé, j'ai pas assuré, ouais, il y a beaucoup de choses comme ça.
Yo tengo una última pregunta. ¿Qué le quieres decir a la nueva generación del rap?
No, yo no creo que tenga cosas que... Sí, escuchan mi música y aprendan también de cosas buenas que los OGs hacen, porque yo aprendo también mucho de los pelados y hay muchas cosas que aprender de ellos y muchas cosas que tienen que aprender de nosotros. O sea que yo diría que hay que ser un puente generacional con criterio, para justamente entender la juventud y que también la juventud entienda que las cosas buenas que se han hecho, porque ellos cantan ahí y tal, pero porque estamos aquí. Y yo canto aquí porque otros estaban aquí, y etcétera, etcétera. Entonces, en un momento dado es como eso, de tener ese, esa mente abierta.
D'un clan d'eau, la sagesse obscure d'un corbeau, l'espoir d'un leader sous les barreaux. Je suis le genre de gars qui se lève au travail cardio, pecto, dorso. Au même titre que rime et flow, je lâche difficilement le morceau. La musique à fleur de peau, chaque compo a son propos. J'ai le rythme et le mambo, l'armantega comme Chano Pozzo. Mes rivaux sont sous carreau, la vie m'a pas fait de cadeau. J'suis au fourneau comme au labo, la cam arrive par plaque. Bah. J'ai appris le métro en mode avion ou incognito. Au fond, j'suis un parigo, j'aime sortir ma ville, son argot. J'évite les keufs comme un pro le soir, chez moi j'allume un bédo. J'ai pété le son, la sono, l'impro d'un Coltrane au saxo. Drink you, m'appelle du lab. J'arrive, j'pêche ou un câble. J'ai la dalle pour mon kebab. Ce soir, j'vais péter les syllabes d'Ali. J'ai juste pris son jab. J'ai le vocab comme Nas, mais j'ai créé mes propres phases. Moi, j'suis libre comme le jazz. C'est plus du rap, c'est du free jazz. Yeah, le rap est mort, j'fais du free jazz. Moi j'fais du hip-hop, comme un jazzman du bebop. J'développe comme moi, j'dévise son style qui traverse toutes les époques. J'suis Charlie Ming, ils sont top. Un parkour le temps d'une clope. Comme un monge, cause de syncope. J'ai l'art black et flow non-stop. La musique soigne toutes nos peines en nous-mêmes, les larmes suprêmes. J'écris un rap en poème et j'me retrouve en plein cœur d'Harlem. J'évolue hors du système, sur scène j'reste un phénomène. J'ai pas de backer dans l'arène, c'est sans playback à l'ancienne. Comme tous les créateurs, j'vis avant l'heure, souvent incompris. Mais j'touche le cœur de mes auditeurs, apaise les âmes meurtries. Moi j'aime voler haut. Pousser les limites du tempo. Placer mes mots comme des notes de piano. Mélo dans l'impro, en espagnol oh, en français stello. Mets-toi comme il faut, j'fais mon solo. Et ton ego mégalo, rêve aussitôt. On fait signe en cabine, faut que j'lâche la dernière phrase. Ultime rime pour l'extase. J't'ai dit j'fais du free jazz. C'est plus du rap, c'est du free jazz. Le rap est mort, j'fais du free jazz.
Une interview réalisée par Radio Campus Tour. Le Pédalo termine sa traversée sur les ondes de campus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à Arthur à la technique. La programmation continue sur le 103 FM. Alors restez bien avec nous et n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.